Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission L'écho des entreprises. Et oui, nous sommes de retour en cette période un petit peu compliquée avec des émissions diffusées K1, mais nous sommes là parce que The Show Must Go On avec Karine Lacroix.
Bonjour.
Ayat Thiénot.
Bonjour.
Merci les filles et les confrères d'être avec moi ce soir parce que aujourd'hui, malgré le déconfinement amorcé et plus qu'amorcé dans nombre d'entreprises, dans les écoles, nous avons eu beaucoup de difficultés à assumer le protocole sanitaire et donc à inviter des gens encore dans le studio. Donc c'est encore un petit peu compliqué, mais on vous le promet, en septembre, on sera de nouveau entouré d'entrepreneurs. Donc cette émission est un petit peu différente de celle des autres, mais consoeur et moi-même, et pas confrère, mais à maxima culpa. Mes consoeurs sont autour de la table aujourd'hui avec moi pour faire un, comment on appelle ça, Karine, un feedback.
C'est ça,
retour,
on peut dire ça, voilà, tout à fait.
Sur cette période un petit peu troublée au niveau des entreprises, mais surtout, essayer de voir ensemble ce qui peut éclairer. Alors, on est tous un petit peu chaos debout, mais en tout cas, on continue, on est avec vous, amis auditeurs. Merci d'être avec nous sur votre radio, Eau de Radio 91.3. Rumors lately about certain man, Queen. The rumors are that we're gonna split up. What do you think? So forget those rumors, we're gonna stay together until we fucking will die, I'm sure. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. All in all, another hero, another mindless crime behind the curtain. émission L'écho des entreprises sur Eau de Radio 91.3. Je suis entourée de mes deux consoeurs, Karine Lacroix et Aya Tieno. Merci d'être avec moi pour cette dernière émission de la saison Écho des entreprises, qui se veut être une émission un petit peu à part entière, puisque on a envie d'échanger avec nous nos propres réflexions, parce qu'autour de ce micro, bien sûr, il y a moi-même, journaliste, mais j'ai aussi deux chefs d'entreprise avec deux casquettes extrêmement différentes. Donc Ayat, je le rappelle, vous êtes créatrice et styliste. Karine Lacroix, vous êtes facilitatrice. Et j'aimerais que toutes les deux, puisque aujourd'hui, pendant les dernières émissions, on a laissé la place à nos invités, j'aimerais vous entendre, vous, toutes les deux, sur votre sentiment, sur ce qui vient de se passer, qui est peut-être encore en train de se passer. On va peut-être commencer par Ayat, qui va nous dire, en tant que chef d'entreprise, ce qu'elle a vécu. L'idée, c'est aussi que, amis auditeurs, on partage. Cette fois, on partage ce que nous sommes avec vous, Ayat.
Alors, bonsoir. Nous, effectivement, merci Aïcha de me donner la parole. Puisque effectivement on a parlé un peu des uns et des autres, mais moins de nous-mêmes. La difficulté que j'ai eue pendant ce confinement, ça a été surtout de gérer trois enfants, dont un bébé de moins de 2 ans, une au collège et une en primaire, avec je pense que tous les parents
se reconnaîtront.
Voilà, exactement. Donc je pense que ça a été le plus compliqué. Surtout que j'ai continué à travailler. On a fabriqué des masques et répondu à l'urgence et aux besoins des uns et des autres.
Vous êtes recyclé, vous aussi, puisque vous faites quand même de la création de mode.
C'est ça.
Je rappelle qu'Orakamina Création, c'est quand même les lauréates du premier prix créateur de l'année de la Fashion Week 2017, avant de se lancer, on est d'accord.
Oui,
hein,
effectivement. Voilà. Là, vous faites des masques. On était loin de notre terrain, puisqu'on fait des jupes, des hauts, des robes, mais pas de masques, pas encore.
Éthique et ethnique, je le rappelle.
Et exactement. Alors, bien sûr, on les a fait au goût du jour, on les a fait avec classe et style, comme on pouvait s'y attendre. Mais c'est vrai que ça a été un peu le challenge, puisque on est créatrice, on imagine les vêtements, mais toute la partie technique, couture, etc., c'est nos couturières qui le font. Donc nous aussi, on fait certaines choses, mais c'est pas le plus gros de notre savoir-faire à nous, en tant que personne, avec mes
des couturières qui se trouvent où, d'ailleurs,
Ayat ? Alors, il y en a une à Pessac, qui s'appelle...
C'est pas grave,
voilà.
Une à Pessac.
qui est senior, d'ailleurs, parce que ça, c'était une de nos valeurs, parce qu'on voulait faire travailler des femmes en reconversion professionnelle. Et une à Casablanca aussi, qui est technicienne, qui est styliste modéliste de métier et donc qui nous donne ce savoir-faire et cet artisanat qu'on a dans nos vêtements. Et donc, on s'est inspiré de ça. On apprend avec elle. D'ailleurs, c'est ce qui nous a aidé aujourd'hui avec les masques. Et voilà, donc on a cousu avec les enfants à côté.
Et ça, c'était dur. Mais les masques, c'était... par nécessité au départ ou par solidarité ? Ou les deux ?
Non, par solidarité en premier lieu, puisque j'ai attendu 3 semaines avant de commencer les masques par rapport à tout cet engouement, parce que je ne voulais pas mettre en danger les personnes qui le portaient, parce que même si c'est qu'un masque barrière, y a quand même des précautions à prendre. Donc la FNOR avait sorti sa grille de taille, avait sorti tout son attirail, l'ARS aussi, donc il y a plusieurs organismes comme ça où on s'est renseigné, des spécialistes du textile, ingénieurs du textile, parce que tous les textiles ne vont pas. Par exemple, j'ai vu des masques faits avec du polaire, des matières chaudes. Clairement, c'est un nid à microbes. Donc voilà, pendant 3 semaines, plusieurs recherches, plusieurs prototypes aussi, puisque les élastiques ne passent pas à 60 degrés. Donc très vite, ça s'effiloche, ça s'enlève. Donc c'est, y a aussi cette valeur aussi éco-responsable. On ne voulait pas polluer plus qu'il y a là en ce moment. Donc on a fait des masques avec des billes en tissu, on a commandé de la ouate agréée AFNOR, donc qui est respirable et qui est considérée justement comme protectrice. Donc tout ça, ça a été mis en place, et ensuite effectivement on a vite répondu à une demande, parce qu'il y a eu une demande accrue
très forte
par rapport aux entreprises, par rapport à des particuliers. Et on s'est vite rendu compte qu'on pouvait être débordé facilement. Parce que la journée commence, il est 7 heures, comme j'avais dit dans une de mes chroniques, et on enchaîne avec les devoirs des enfants, on enchaîne avec les rendez-vous, avec les différentes contraintes qu'on a personnellement et professionnellement, puisque il y a aussi ces contraintes financières de la trésorerie en tant qu'entreprise. Donc comment le banquier doit réagir? On s'est rendu compte que le banquier pendant 3 mois a fait silence. Ça, c'est des choses taboues qu'on n'entend pas beaucoup. Moi, personnellement, je n'ai pas entendu ce genre de discours pendant le Covid, pendant le confinement. Beaucoup d'entreprises se sont retrouvées à mettre la clé sous la porte ou à être en grande difficulté parce que certaines banques ne jouent pas le jeu. Et là, pour vous dire, j'ai fait appel à un médiateur du crédit pour pouvoir avoir une intervention puisque aucune communication. Et heureusement qu'on avait une trésorerie positive.
Vous parlez du prêt garanti pour l'État. On a eu des témoignages là-dessus sur un certain nombre de personnes qui avaient en tout cas les banques avaient obligation au moins de répondre et donc il n'y avait pas de risque. Et c'est vrai qu'on a eu un certain nombre de témoignages de personnes qui trouvaient porte close, mais visioconférence close avec leur banquier.
Exactement, on ne savait pas si eux-mêmes étaient atteints par le Covid, on ne savait pas si on ne savait pas s'ils étaient séquestrés, les mails ne revenaient pas, enfin il n'y avait aucune réponse et on a dû effectivement embrayer et donc trouver de la trésorerie, trouver du chiffre d'affaires. On a eu la chance d'avoir du chiffre d'affaires, mais voilà, ça nous sort pas non plus de notre domaine. Et quand vous voyez qu'en moins de 48 heures, la banque répond au médiateur du crédit, vous vous dites qu'il y a un problème, parce qu'on ne demande pas grand-chose. J'ai anticipé avant le confinement, une semaine avant, lorsque les frontières marocaines ont fermé, parce qu'elles ont fermé bien avant et le Maroc a été exemplaire à ce niveau-là. Et une semaine avant, j'ai prévenu mon banquier de ce qui allait arriver, du moins pour nous, à notre niveau. Donc j'ai essayé de négocier un gel d'échéance comme ce qui a été prévu par la suite par le président. Et on m'avait dit « oui, on revient vers vous ». Sauf que pendant 3 mois, quand vous n'avez pas une réponse du banquier, que tous les jours vous vous démenez pour essayer de garder une trésorerie, que vous vous dites « la crise va passer », mais qu'en fait vous n'avez aucune certitude, ni personnellement ni professionnellement, c'est très dur de garder les nerfs solides et de se dire « est-ce que ce travail-là aujourd'hui, est-ce que cet argent que je rentre, en fait, ne va pas aller dans le vent ?» finalement. Et je pense qu'aujourd'hui, la problématique des entrepreneurs, ça a été ça. C'est est-ce que tout cet effort qu'on a fourni pendant le confinement ou hors confinement, est-ce que finalement, on va en retirer ne serait-ce que 1% ou 0,5% de ce travail-là ? Parce que c'est fatigant. C'est fatigant de gérer. Et les enfants, même si mon conjoint était là, parce qu'il était là, il m'a aidé le premier mois et heureusement qu'il était là, mais c'est contraignant, c'est fatigant au niveau des nerfs puisqu'on ne sortait pas. La machine à coudre qui
répite en permanence.
Voilà, exactement. Donc, il faut aussi gérer avec les horaires, avec les nerfs de chacun. Et aujourd'hui, je peux le dire, le résultat, le chiffre d'affaires, ce chiffre-là que j'ai fait pendant ce confinement, je n'ai eu aucune rémunération là-dedans pour protéger mon entreprise.
Karine Lacroix, quand vous entendez... Ce type de témoignages, on en a récolté beaucoup, on ne les a pas tous diffusés. La loi médiatique étant ce qu'elle est, nous n'étions pas forcément toujours auprès des personnes, mais on a gardé quand même le lien par téléphone et on a eu énormément de témoignages de ce type-là. Vous, en tant que facilitatrice, puisque je le rappelle, vous accompagnez aussi les entreprises dans leur démarche RSE essentiellement, mais aussi sur un questionnement interne et leur évolution. Quel regard vous avez sur... parce que là, on a quand même un certain nombre d'entreprises qui arrivent. Je pense que le tribunal administratif, ça va commencer en septembre à arriver. Il y en a certains qu'il faut aussi aider à fermer pour mieux réouvrir avant que ce soit trop le chaos. Quel regard vous portez sur cette période ?
Le moins qu'on puisse dire, c'est quand même que cette crise, elle est hors norme à plein de niveaux, quoi. D'abord dans la durée, parce que... C'est pas 2008, c'est pas à un moment donné, on prend conscience qu'il y a une bulle qui explose, et voilà, la bulle a explosé, voilà. là, on avait des indicateurs qu'on n'avait pas envie de voir, même quand c'est arrivé en Italie. Enfin, c'est quand même incroyable. On avait le pays à la frontière, ça arrive en Italie, et on se dit, c'est pas grave, pas chez nous, quoi. Enfin, voilà. Et puis ça arrive chez nous. Et bizarrement, d'un seul coup, on prend conscience qu'il n'y a plus de frontières. On prend conscience que ça fait partie de la chronique que je vais exposer tout à l'heure. On revient à des fondamentaux qui sont juste vivre, quoi, c'est-à-dire manger, être en sécurité, dormir, et voilà. Et du coup, ça révèle encore plus toutes les inégalités qui étaient déjà sous-jacentes, mais en fait, cette crise du Covid a révélé énormément de choses, y compris sur le fait que le temps, on le gère pas. Et qu'à un moment donné, alors moi j'ai pas d'avis sur comment a été gérée la crise, parce que pour le coup, pour rien au monde, j'aurais voulu être à la place du gouvernement. et voilà. Mais quand même.
Mais il y a un flot, en effet, on l'entend quand on écoute Hayat et d'autres. Ouais. On l'a tous vécu, hein. Mais ce flot du temps qui nous emporte, et en fait, on est là, il est 23h, on est posé physiquement, mais mentalement, ça continue à mouliner.
Vous savez, moi je vais prendre mon exemple. Donc effectivement, je suis facilitatrice. Et finalement, comme tous les autres, j'ai rien vu venir. Pourtant, je voyais bien. Enfin, je regarde les informations, je me tiens au courant et je me dis quand même, il va se passer quelque chose. Et puis, pourquoi la France échapperait à un confinement voilà. Mais j'y crois pas. Finalement, j'y crois pas. Et puis, on nous annonce. On regarde la télévision. On nous annonce. J'ai ma moitié qui est en répétition. Chorale, et moi je suis devant la télé en train d'apprendre, de voir Monsieur Macron qui nous annonce qu'effectivement il va y avoir confinement mardi. Et d'un seul coup, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Le lendemain, avec ma moitié, on se dit, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer, on va être enfermé à la maison, on va au resto. Et on est allé au resto le vendredi soir en se disant, ce sera le dernier avant, je ne sais pas combien de temps. Voilà. Et on n'a pas mesuré l'aspect sanitaire de la crise.
Bah oui.
S'est dit, tiens, on se fait plaisir pour une dernière fois, quoi. C'est la privation de liberté d'abord qui nous a, voilà. Et du coup, on y est allé. Le samedi, on va se promener et quand même, on se dit, mais dans les magasins, comme si les gens attendaient finalement que ce soit le début du confinement et que du coup, pendant 3 jours, on a quand même alimenté sans aucun doute développement du virus, quoi. Et le dimanche, c'est les élections. Et pardonnez-moi, mais moi, je veux bien qu'on critique, encore une fois, toutes les décisions diverses et variées. Mais moi, je suis allée voter. Alors, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas du tout le souci. Sauf que utiliser le prétexte du Covid pour dire je vais pas aller voter, quand ce jour-là, il fait un temps magnifique et qu'on a 15 000 personnes qui se baladent sur les quais ou dans les parcs, ça fait un peu doucement rigoler quand même, quoi.
D'autant plus que là, on a eu la preuve. S'inédier que c'était pas une question sanitaire,
c'était
parce que je crois qu'on a eu le record d'abstention historique, toutes élections confondues. Hein.
Ceci dit, la crise, ce qui est très surprenant, c'est qu'on y est encore. C'est-à-dire que la crise n'est pas finie. Et ça aussi, c'est quelque chose de particulier. Je reviens sur 2008, où à un moment donné, on voit bien un effet domino. Un domino tombe et hop, d'un seul coup, tout s'embarque. Là, c'est pas forcément ça, parce que ça dure dans le temps. Ce virus, aujourd'hui, on est capable... Alors, on a progressé, on est capable de voir un peu comment... Et encore, on n'est pas forcément capable de voir comment il fonctionne. Mais on est capable de savoir quels gestes barrières sont efficaces. On est quand même beaucoup plus... à même de réagir sans aller sur un confinement, sans revenir en tout cas sur un confinement global, mais en tout cas, aujourd'hui, on a un peu plus de recul pour se dire, maintenant, on pourrait faire ci et faire ça. Mais quand même, deux ou trois mois de confinement, ça a un effet massue et ça a induit des comportements dont on n'est encore pas sorti, quoi. Et dont on est encore incapable de mesurer tout l'impact, y compris sur le plan économique. Une crise, forcément, ça met des gens dans la merde, pardonnez-moi de le dire comme ça, et en même temps, ça sert à d'autres. Voilà. La particularité de celle-ci, c'est que on voit bien qu'à un moment donné, la prise de conscience d'une espèce du sens de la vie, et moi je suis de nature très positive, ramène quand même des questions de mais finalement à quoi ça sert tout ça et comment on va équilibrer tout ça. Et du coup, on voit bien les dernières élections qui sont passées.
C'est ce que j'allais vous relancer dans le résultat des élections. Alors bien sûr, d'aucuns diront qu'avec 15% de participation, parler de vague verte serait un peu présomptueux. Mais à voir. Pierre Urmic, à la tête de Bordeaux, ça. Pour nous qui sommes de la métropole, ça s'appelle une révolution, on est d'accord. Ouais. Voilà, c'est pas non plus néophyte en politique, hein, puisque donc ça fait quand même plus de nombreuses années, plus de 20 ans qu'il est dans l'échiquier politique local, mais que comme ça la droite soit déboulonnée, républicaine classique, hein, la droite bordelaise, voilà, c'est qu'elle ait été comme ça déboulonnée, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la prise de conscience que les gouvernants n'auraient pas vu.
En tout cas, alors les gouvernants, les chefs d'entreprise, les personnes lambda, enfin tout à chacun, franchement tout à chacun. Par contre, ce que je trouve moi très intéressant dans ce qui est en train de se passer, c'est que on se pose des questions. Et qu'à un moment donné, on se dit, il faut que ça change. Et quand on voit, ne serait-ce que pour les dernières élections, des fonctionnements, on va s'opposer aux Verts, on fait barrage et on va faire des alliances parce que le seul but des alliances, c'est de s'opposer au passage des Verts. Et qu'on voit que ça fonctionne pas, on voit bien que même dans le système politique, à un moment donné, ça ne peut plus fonctionner. Et que ce qui commence à faire recette, c'est quand on essaye d'apporter du sens et quand on essaye de répondre de façon pragmatique à des problématiques que les gens ont aujourd'hui et au quotidien.
Ce revendiquent les socialistes en disant, en découvrant l'alliance de la gauche unie tout d'un coup, peut-être qu'en se mettant ensemble, mais du coup, voilà.
Mais c'est ce que découvre beaucoup de monde. Et ceci dit, le côté positif de la crise, c'est quand même qu'on a vécu des événements de solidarité pendant la crise qui ont été aussi magistraux. On a vu des entreprises changer complètement leur production dans des gestes de solidarité pour effectivement fabriquer du gel hydroalcoolique, pour fabriquer des masques, pour un tas de choses comme ça. Ça a le mérite d'exister. Et moi, je suis persuadée que les entreprises qui ont fait ça sont des entreprises qui, à minima, avaient une conscience de cette responsabilité sociétale qu'ils occupaient dans la société française et qui, du coup, ont eu une occasion magistrale de le mettre en pratique. Mais bien sûr, là-dedans, il y en a toujours pour profiter, évidemment. Mais quand même, moi, je préfère mettre en avant une société comme L'Oréal, si je me trompe pas, qui très vite a réagi et qui très vite s'est mis à produire. C'est du gel hydroalcoolique, hein, je crois. Voilà, c'est ça. Et sans forcément en faire une publicité extraordinaire. Voilà.
En tout cas, l'idée était avancée. Était de pas mettre sur le carreau un certain nombre de salariés. Donc, en fait, ça a à peu près fonctionné.
Oui.
À l'échelle locale, on a aussi des exemples.
Bien sûr.
Souvenez-vous, donc dans notre dernière émission, nous recevions Eric Mikoulou, Interclean, qui fabriquait des objets décoratifs en plexiglas et qui a fait des protections de bureau, etc. Ou Interclean qui s'est mis à faire des produits désinfectants pour les grandes entreprises. Mais certains autres à l'échelle locale ont également donc fabriqué des masques comme vous, Hayat.
Oui,
mais ont su en tout cas se réinventer. Et ce que je trouve moins intéressant, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est qu'en fait finalement à l'échelle nationale, on a aussi des gens qui ont fait des respirateurs en 3D. L'entrepreneur, il sort aussi de sa case et il montre que finalement il y a quand même des possibilités d'aller sur des terrains qui ne sont pas acquis. Et la question qu'on se demande, c'est est-ce que ces élections, elles vont enfin faire prendre conscience qu'il va peut-être falloir donner aussi les moyens de faire à grande échelle ce qui s'est fait à l'échelle locale.
Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'au début de sa présidentielle, le président Macron avait parlé des premiers de cordée. D'ailleurs, ça avait fait une grosse polémique à ce niveau-là. Et pendant la crise, il s'est avéré que les premiers de cordée n'étaient pas ceux cités en début de mandat. Et on s'est rendu compte dans le pays qu'il y avait beaucoup de petits entrepreneurs, beaucoup de petites entreprises, auto-entreprises, etc., qui savaient se réinventer, qui savaient s'adapter. Pourtant, Dieu sait que c'est très dur lorsqu'on a une machine en marche, un protocole, entreprise, etc. Ne serait-ce que de se fournir, c'est très dur. Nous, en tant que couturière, on a eu cette difficulté-là de se fournir. Heureusement qu'on avait un stock de tissus qui devait être utilisé pour une collection, pour la prochaine collection. Et en fait, on l'a utilisé, c'est avéré que c'était du coton. La seule chose qu'on a rajoutée, c'est la ouate fournie par notre fournisseur en 24 heures. Mais beaucoup se sont mis, comme vous avez dit, à faire des plexiglas pour protéger les hôtesses de caisse, parce qu'on s'est rendu compte que les premiers de cordée, c'était pas non plus les infirmières, les médecins, etc. Ben, c'était les petites hôtesses de caisse qui étaient là, sans forcément avoir le matériel adéquat. C'est les éboueurs, c'est les nettoyeurs, c'est toutes ces personnes-là qui sont au front.
C'est en première ligne, en tout cas.
Exactement. Et on les entend pas forcément à la radio ou à la télé, ou on leur donne.
On reviendra sur le rôle médiatique dans un second temps.
Mais effectivement, pour parler à l'échelle locale, on a la Philomatique de Bordeaux qui, à la base, en fait, est un centre d'artisanat, d'apprentissage, etc., qui est en plein centre de Bordeaux, qui a pris l'initiative de prendre ses couturières apprenties et de prendre d'autres personnes bénévoles pour faire fabriquer des masques, etc., et les distribuer avec l'aide de la municipalité de Bordeaux aussi, avec l'aide de certains petits commerces, de faire des points de distribution pour ces personnes-là.
Beaucoup de municipalités ont fait ça aussi, et tout à titre bénévole.
Tout à fait. Donc, c'est
les salue.
Voilà.
Karine, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, moi, ce que je trouve très intéressant dans cette crise, quand même, c'est que on a beaucoup entendu des critiques diverses et variées et qui commençaient à émerger sur la fameuse économie de marché et sur cette fameuse façon de faire du commerce où le seul objectif finalement ce serait de faire du profit. Et puis quand même, quoi. D'un seul coup, le Covid arrive, on nous annonce que tout ferme. Et ce qui devient prioritaire, c'est de pouvoir manger, je le redis, hein, c'est le vital, c'est de pouvoir dormir. Et c'est la santé. Voilà. Et d'un seul coup, on voit bien qu'en 2 ou 3 mois, tout un système d'une économie de marché voit les cartes complètement rebattues. Qui aurait pu dire, dans la région aujourd'hui, que l'aéronautique allait vivre ce qu'il vit aujourd'hui. Voilà. Qui aurait pu dire que le rapport à la Chine et au déploiement et à la relocalisation allait revenir de façon aussi magistrale? On s'est quand même pris dans la figure le fait d'avoir des médicaments, des masques, et j'en passe, et des meilleurs, qui sont fabriqués à des kilomètres et qui nous reviennent, alors qu'effectivement, localement, on peut être capable de fabriquer ces choses-là.
Et très, très vite.
Et très vite.
Par contre,
ce que je trouve fou et ce que je trouve aberrant, c'est que des gens qui, d'un seul coup, se mettent en dynamique de produire, qui ont les compétences, se retrouvent, d'un seul coup, fermés parce que ils n'ont pas la bonne certification, parce que ils n'ont pas fait la bonne déclaration, ou parce que, et là on se dit, et là pour le coup on se dit, on marche sur la tête.
On va continuer cette conversation tout de suite après une petite pause, parce que on écoute Alain Bachung.
D'entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exil, le trésor satiné, doré à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise, inlassablement se dévoile de mes doigts de palper. Palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée et les vacances. Abstinence, ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores. Le tir du néant. Qu'importe l'amour s'exporte.
qui coule à mes oreilles. Ma petite entreprise, que ne pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement hausse mes voiles et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, c'est bâtiment B. À l'oreille de ce lèvre.
Vous voici de retour sur votre, dans votre émission, L'écho des entreprises, 91.3 sur Eau de Radio. Juste avant la pause musicale, Hayat, vous vouliez réagir. On parlait des masques, de ces entreprises qui se sont recyclées, mais certaines peut-être ont été un petit peu oubliées parce qu'il y a eu pas mal de solidarité, c'est vrai. On a parlé de grandes entreprises qui ont su se recycler, des petits qui avaient donné. Et quelle rétribution aujourd'hui, peut-être un peu d'oubli très très vite. On oublie très vite, Hayat, c'est ça?
Alors c'est pire que de l'oubli.
Je crois que c'est le thème de même de votre chronique après. Je vous laisse répondre et on vous écoute dans la foulée. On fait ça?
Ok, super.
On fait ça.
Oui, je voulais réagir par rapport à ce que disait Karine, justement, par rapport à ces personnes qui ont été vite oubliées. Mais c'est pire que de l'oubli, puisque... au plus fort de la crise, quand on était démunis par rapport aux masques et que justement ils étaient bloqués en Chine, que voilà, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de dysfonctionnements, beaucoup de couturières nationales, que ce soit des professionnels ou des apprentis ou des débutantes, se sont mis à coudre des masques. D'ailleurs, l'hôpital de Montpellier, le CHU de Montpellier a fait un tutoriel de masques, bon, qui s'est avéré par la suite pas très protecteur à cause de la ligne latérale qui pouvait faire passer les particules puisqu'elles sont très très fines. Mmh. Et mais ça a été fait. Ça a été fait dans un élan de solidarité.
Il y avait des initiatives.
Tout à fait. Donc c'était acceptable par l'État. Mmh. On en donnait même aux soignants. Mmh. Pour vous dire. Donc c'était voilà, on acceptait, c'était à ce moment-là, c'était homologué limite par l'État. Mmh. Et puis moi en tant que couturière, comme je vous ai dit, j'ai attendu facile 3 semaines après l'annonce justement de ce fameux tuto du CHU de Grenoble, pardon, j'ai dit Montpellier, mais c'est Grenoble. J'ai attendu l'appel national, parce que nous sommes régis par une fédération nationale de couture, donc l'AFNOR qui est elle au niveau des grilles, au niveau de la gradation, etc., et au niveau du protocole textile, et par d'autres organismes d'État. Mmh. Donc ces organismes d'État ont sorti ce fameux protocole avec le tuto, avec les masques, avec les prototypes, etc. Jusque-là, tout va bien. Donc tout le monde s'y est mis, tout le monde a fait des centaines, des milliers de masques, des associations, des professionnels, etc. Et puis quand on a vu qu'il y avait ce fameux business, puisqu'effectivement il y a des personnes qui en ont profité, on s'est mis à pondre une homologation, mais elle n'est pas gratuite. Donc les petites entreprises, les petits créateurs, les petites couturières comme moi, comme mes collègues, comme ma couturière de Pessac, on s'est retrouvés, mais la veille au lendemain, pire qu'oublié, c'est-à-dire qu'on nous interdisait carrément
de produire.
Alors, Beaucoup nous diront non, c'est pas vrai, puisqu'on a continué à faire des masques. Oui, mais c'était des masques. Alors, on n'avait pas le droit de dire masque grand public. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de la ouate qu'on a achetée chez notre fournisseur. Cette ouate, elle est homologuée à AFNOR. Donc, elle a subi des tests, elle a été acceptée, etc., par les organismes d'État. Nous avons acheté du coton, ça reste du coton, à vos souhaits. Du coton, ça reste du coton. Et donc, notre masque était, allez, à 90% homologué grand public. Sauf que, pour que j'ai cette petite étiquette, cette petite vignette, il fallait que je débourse plus de 2000 euros.
Ouais.
Plus de 2000
Sachant
euros
que
d'un coup.
La première mesure pour les entreprises de cette taille-là, l'aide maximale se montait à 1500 euros. Donc,
exactement.
Ça couvrait même pas l'homologation.
Ça couvre pas. Et 2000 euros, c'est un peu aussi craché. Sur la compétence des personnes qui ont fait ça. Alors effectivement, il y a des personnes qui se sont mis à coudre tout et n'importe quoi, comme je disais au début. Mais c'est aussi dire à ces petites entreprises, c'est bon, on a pris le relais, on a reçu notre stock. Maintenant, vous arrêtez parce que le business, il est là. Parce que Carrefour, un Boeing a été bloqué à l'aéroport de Vitry, près de Reims, parce que c'était un Boeing qui avait été prêté par une grosse entreprise, on ne sait pas laquelle, où il y avait les masques de l'État. Et donc, il y avait une guéguerre administrative, c'est allé jusqu'au tribunal, etc. Mais ces masques-là, pendant que nos soignants, pendant que plusieurs personnes en avaient besoin, est resté à terre.
Donc, à une période où on en manquait cruellement.
Exactement.
Quoi.
Donc, il y a des aberrations comme ça qu'on a eues. Et du coup, on se retrouve en tant que petite entreprise, en tant qu'artisan, et d'ailleurs, ma chronique en fait l'objet, tous ces petits oubliés où on se dit du jour au lendemain, on n'a pas besoin de vous.
On vous écoute, Hayat.
Super. Donc, comme je disais, on parle beaucoup des entreprises face au Covid. Donc, les boutiques, les restaurateurs, les fabricants, les grosses boîtes comme L'Oréal, on a parlé. Mais qu'en est-il des artistes, des intermittents, des pigistes, des petits créateurs? J'ai lu il y a quelques jours sur mon fil d'actualité Facebook que ces activités étaient des domaines dits inutiles. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, inutile. Pour moi, il n'y a aucun domaine qui n'est inutile. Mais dans cette crise du Covid, les aides de collectivité faisaient à fine bouche. Donc, il y avait des métiers utiles, des domaines utiles et des domaines inutiles relayés au second plan. Et pourtant, à l'heure du déconfinement, la première chose que les gens ont fait, c'est aller voir des concerts, réserver des places de cinéma, sortir. D'ailleurs, toutes ces choses dites futiles, mais qui ont cruellement manqué au commun des mortels. On l'a bien vu à la fête de la musique. D'ailleurs, il y a eu les débordements. Au point où on oubliait tous les gestes barrières, la mort, la maladie. On a tout oublié le temps d'une soirée. En parlant de mort, comment continuer à divertir les gens quand dans ces domaines déjà précaires, on licencie à tout va? On n'aimera pas la chaîne d'info il y a quelques jours dirigé par un businessman et non par des personnes du métier qui étaient en train de faire grève face au plan de licenciement massif dont elle fait l'objet. Comment continuer à produire des contenus de qualité lorsque l'on vous demande de produire à la va-vite et sans moyens? Moi, je vous le dis, quelle que soit la culture, elle se meurt. Nous sommes passés d'artistes et philosophes du temps des Lumières qui ont traversé les siècles à des programmes de télédébilité où l'on voit des personnes s'insulter avec une plastique disproportionnée, où l'on voit des personnes gagner des millions pour avoir fait une vidéo buzz en rotant. Oui, on en est là. Pleurez pas, le QI est en danger, clairement. Nous en sommes à avoir des pseudo-spécialistes de tout, sauf de sujets de fond, avec un réel travail de recherche, surtout... sans réel travail de recherche, surtout à l'heure où on peut tout googliser. Ces mêmes spécialistes que se disent philosophes, mais qui se contredisent en une seule phrase. Avant, nous avions des artistes, engagés, avec des textes raisonnés sans concession. Aujourd'hui, on a des chansons. Il fait beau, je suis fatiguée. La moulaga. On ne sait pas d'où ça vient, ce mot. Oui, vous avez bien entendu, la moulaga. Je ne peux pas vous donner sa traduction.
On connaît la définition, mais pas à la radio,
voilà.
Ça ne se fait pas.
Exactement. D'ailleurs, en tant que créatrice, j'ai été choquée d'apprendre la fermeture de l'atelier Lanvin. Quand je vois que Naf a été repris par son fournisseur franco-turc, que la cristallerie Lorraine Baccara est vendue à un fonds chinois. Si des marques de tel prestige ont subi ce genre de choses, après le Covid, après justement la prise de conscience, qu'en est-il pour nous en tant que petits créateurs, en tant que petits artisans, en tant qu'intermittents, en tant que pigistes, toutes ces personnes, tous ces oubliés de la société pendant 3 mois. Ce qui est sûr, c'est qu'à trop vouloir grandir trop vite, on finit par se faire bouffer par plus grand que soi, ou on finit par exploser et disparaître dans les méandres du consumérisme. Donc, messieurs, mesdames, sauvons ce qui reste de la vraie culture, donnons les moyens à ces artistes intermittents, créateurs, pigistes, pour qu'ils redonnent les vraies lettres de noblesse de ce que la France fut autrefois, et non une pâle copie d'une Amérique ou d'une Chine outrancière, où le paraître et le profit prennent le pas sur l'authenticité et la classe.
Merci Ayat. Je note que dans cette chronique poétique, hein, quelque peu pessimiste, qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui ? Parce qu'un artiste, c'est aussi là pour lire le monde. On entend cette détresse. Je note que vous mettez les pigistes avec les artistes. Donc bon, il y a quelque chose qui se passe aussi, oui, dans le monde de la presse, qu'on est quand même obligé de relayer aussi. Ces colosses au pied d'argile que vous avez vus, hein, que vous avez cités, ces entreprises qui peuvent être... voilà, qui ont été dynamitées par une goutte d'eau. Elles disent aussi des choses aux artistes. Vous, en tant que créatrice, vous avez envie de créer quoi, là, de faire quoi ? Ça serait quoi votre réponse ?
Mais
un artiste doit répondre aussi.
Pour revenir à ce que vous disiez par rapport à ce regain d'écologie et de prise de conscience, créer des choses utiles. Tout à l'heure, je parlais de masques. Il était hors de question que je fasse des masques périssables. D'ailleurs, on en voit par terre, on en voit partout, sauf dans les poubelles. Et ça, c'était inconcevable. Et déjà qu'avant le Covid, on faisait attention à toutes ces choses, justement, à tout ce qui était valeurs éco-responsables, solidaires, etc. Et justement, c'est une chose où on va redoubler d'efforts. Oui, alors elle est pessimiste, cette chronique est pessimiste, mais par contre j'ai l'espoir que les gens se réveillent et que les premiers de cordée se réveillent aussi, tapent du poing sur la table et disent on est là.
Moi, j'ai pas envie de dire qu'elle est pessimiste, je retire, j'ai envie de dire qu'elle est à l'image de ce que l'artiste est censé faire.
Exactement.
C'est-à-dire dire avec justesse,
voilà,
et vérité. Ça, c'est le travail,
et
le travail
des
facilitateurs, c'est de nous expliquer et de nous permettre de regarder, parce que on a tous un petit peu décompensé, hein, Karine Lacroix.
Oh,
on écoutait Françoise Rocherieu, une psychologue du travail, une spécialiste, une médiatrice des salariés, des entrepreneurs. Elle intervient, elle, sur le terrain, et elle nous faisait remarquer à quel point cette période avait été génératrice de stress, et que en fait, elle s'inquiétait en tant que spécialiste de santé. Mmh. On en a reçu d'autres, entendu d'autres, qui voyaient arriver, certes d'un point de vue économique, ça va tomber, disent certains à la rentrée, mais elle avait surtout peur, en fait, de notre regard là-dessus. Est-ce que l'art peut nous aider ? Est-ce que justement, si les intellectuels pourraient peut-être s'emparer de ça et nous donner des clés ?
Et c'est là qu'on a des opportunités magistrale. Enfin, effectivement, on a tous décompensé. Moi, la première. Hein. Vous imaginez, je suis facilitatrice, je crée et je développe mon réseau, et d'un seul coup, on nous dit chacun chez soi. Et du coup, alors merci la visio, hein, mais quand même, hein, ça remplace pas le contact. Et du coup, moi, j'ai vécu presque 3 phases. Les premiers 15 jours, c'était super. Enfin, comme une grosse découverte, donc un peu, voilà, c'était presque rigolo. Enfin, franchement. Et puis la deuxième, c'est mais mince quand même, quoi. C'est ce virus, ça se développe, il y a des morts. C'est un peu anxiogène, les infos, parce qu'on nous dit le nombre de morts tous les jours. Donc, au bout d'un moment, on se dit, je vais y passer. Et puis du coup, je me suis presque moi-même autoconfinée. Et en fait, je me suis isolée toute seule en plus d'un confinement. Donc quoi, oui, effectivement, le confinement a eu des effets, voilà. Et du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir. C'est un peu le sens de ma chronique aujourd'hui, sur cette fameuse pyramide de Maslow. Quand on est dans le monde de l'animation, de la formation, de l'accompagnement, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Et du coup, je vais vous expliquer. Voilà. Donc, je voudrais effectivement vous parler aujourd'hui de la pyramide de Maslow, ce lien avec la crise, et du coup, comment cette crise nous permet de la regarder et de la voir autrement. Maslow, alors pour ceux qui connaissent pas, Maslow, c'est un psychologue américain qui est considéré comme un des pères de l'approche humaniste aux côtés de Carl Rogers, qu'on connaît beaucoup plus parce qu'il nous a parlé de l'écoute active. Voilà, ou James Bougenthal ou encore Rollo May. Ils sont tous psychologues et ils ont tous amorcé à un moment donné une façon différente d'aborder l'humain. Abraham Maslow, lui, il présente un modèle qui définit 5 catégories des besoins humains. Le premier, effectivement, il l'a mis sous forme de pyramide. Le premier, c'est les besoins physiologiques, se nourrir, respirer, dormir, etc. Le deuxième, c'est les besoins de sécurité, avoir un environnement stable, une bonne santé, des choses comme ça. Le troisième, c'est l'appartenance, la recherche d'amitié, de relations, d'amour, de toute cette dynamique-là. Le quatrième, c'est le besoin de reconnaissance, la recherche du respect, de l'appréciation, de l'estime, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle l'accomplissement de soi. C'est comment je me réalise, comment je trouve un équilibre, comment je me développe dans une culture, comment je me développe dans d'autres cultures, à l'ouverture de d'autres cultures et toutes ces choses-là. Cette pyramide, alors, c'est le propre des schémas. Parfois, ils peuvent avoir l'inconvénient de paraître figés. Parce que du coup, sous l'aspect pyramidal, et d'ailleurs, Abraham Maslow le présentait un peu comme ça. Il le disait en disant, pour pouvoir passer à un besoin supérieur, eh ben, faut avoir un peu comblé le premier besoin. Voilà. Sauf que cette pyramide, du coup, elle a été reprise dans le marketing et elle a été un peu décriée. Alors, ça montre que c'était quand même pas mal foutu et bien fondé. Et en même temps, ça a été controversé, ça a été contesté parce que, on voit bien, hein, aujourd'hui, on en a la preuve tous les jours, hein, on va dire avant Covid, on en avait la preuve tous les jours. On connaissait bien des gens qui étaient capables de bouffer des pâtes pendant des mois pour s'acheter le dernier iPhone à la mode. Donc on voit bien que du coup, dans l'aspect consommation, on va partir sur quelque chose, un objet qui a du luxe et que du coup, le besoin primaire, c'est pas forcément lui qui prime. Donc beaucoup ont dit non, ce que dit Maslow, c'est pas forcément vrai parce que du coup, on voit bien que ça peut pas être pyramidal. Et il faut pas forcément avoir fait une première pour en arriver à d'autres. Mais la crise du Covid, elle a remis tout le monde d'accord et elle est revenue rabattre toutes les cartes. Moi, je me vois encore au moment de l'annonce du confinement. Quand il a commencé et je vais faire des courses comme d'habitude. Elles ont pris un caractère surréaliste en moins de 3 secondes. J'arrive dans le magasin, je ressens une sorte de frénésie qui m'envahit peu à peu. Il n'y a plus un seul pack d'eau. Le rayon pâte se raréfie. Et quand je vais chercher du PQ, vous connaissez la suite. Bref. Lorsque j'arrive à la caisse, je suis stressée et la douloureuse est là pour confirmer que j'ai fait des achats supplémentaires. Je rentre à la maison, je pose toutes les courses dans le couloir, j'interdis à ma moitié d'approcher et je file prendre une douche et mettre mes vêtements dans la machine à laver. Quand je sors de la douche, l'anxiété s'est répandue dans l'appart. Et là, je me dis, c'est pas possible, stop, quoi. On arrête. Je mesure à ce moment-là, moi, la chance que j'ai de pouvoir manger, dormir et respirer en toute sécurité chez moi. J'ai des voisins au-dessus qui sont des personnes étrangères qui, d'habitude, on entend les enfants et ceci et cela. Et là, à partir du moment où on était en confinement, plus jamais je les ai entendus. C'était incroyable.
Et triste.
Eh oui, incroyable et triste. Mais du coup, on se cache, quoi. Voilà, il y avait un peu de cette dimension-là. Mais même moi, du coup, je me confine. J'applique les gestes barrières. Prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Et d'ailleurs, les Français s'y sont pas trompés. On les dit indisciplinés, épris de liberté, et contre toute attente, ils ont respecté le confinement. Et bravo. La santé d'abord, l'économie après. Tout le monde revient à ses besoins primaires. Enfin, ceux qui peuvent, quand même. Parce que la crise accentue les inégalités et il y en a pour qui même manger, dormir et être en sécurité, eh ben on a bien mesuré que c'était pas simple. Abraham Maslow, il a raison. Se nourrir, respirer, dormir, être en sécurité, en bonne santé, tout ça, c'est fondamental. La crise montre à quel point, quand tout va mal, ces deux premiers stades de la pyramide sont effectivement primordiaux et la base de tout. Ce qui rend d'autant plus crédible cette pyramide aujourd'hui, c'est l'aspect mondial de la crise. Les comportements sont généralisés, au-delà des cultures, au-delà des niveaux sociaux, au-delà des âges, au-delà des genres. En Inde, les populations les plus pauvres ont bravé le confinement pour ne pas mourir de faim. S'il est nécessaire d'affiner cette approche, parce qu'effectivement, ça peut pas être qu'une pyramide, on voit bien qu'il y a du flux, mais on sait bien ce que nous révèle la crise du Covid et ce qu'elle nous force à constater, c'est qu'il doit y avoir un minimum fondamental dans les deux premiers stades des besoins physiologiques et sécuritaires pour pouvoir aborder les autres sereinement. Et ce qui est valable en temps de crise doit perdurer en temps de paix.
Comment ? On va peut-être répondre après une petite pause musicale. On écoute Mickey 3D, parce qu'il faut qu'on respire.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupable. À moitié défroqué, 100% misérable. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou. On remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
Amis auditeurs, bienvenue dans la dernière ligne droite, la dernière partie de notre émission, l'écho des entreprises 91.3 sur votre radio, Eau de Radio. Je suis avec Karine Lacroix Ayatieno. Karine, vous venez de terminer votre chronique. Je le répète, vous pouvez écouter cette émission évidemment en en replay sur le site de audoradio.net. Vous cliquez sur l'émission du lundi et vous défilez, vous tombez sur Écho des entreprises et vous aurez à la date du 29 juin cette émission-ci à écouter, à réécouter, bien sûr à partager. Karine, vous parliez de la pyramide de Maslow, donc de cette nécessité on a bien compris que c'était un outil de travail, qu'elle pouvait être dévoyée par la communication, la publicité, et que comme n'importe quel outil, on pouvait l'utiliser pour tartiner son beurre ou pour assassiner. Mais bien sûr, là, on est dans plutôt un outil qui permet de comprendre les besoins humains primaires et gradation. Et c'est ce qui fait dire souvent que certaines maladies sont l'apanage des pays riches et d'autres sont qui ont satisfait leurs besoins primaires et qui du coup s'inventent de manière un petit peu arbitraire, un petit peu lapidaire, c'est une façon de résumer. Mais vous vouliez ajouter quelque chose sur cette pyramide, on vous écoute.
Mais on peut pas négliger le fait que cet aspect pyramidal est quand même effectivement compliqué, quoi. On voit bien que avec cette crise, tout ce qui s'est arrêté, c'est aussi l'aspect loisir, mais l'aspect rencontre, l'aspect culture, toute cette dimension-là. Et on a bien compris, d'ailleurs, c'est aussi l'exemple de la fête de la musique. La fête de la musique, elle illustre ça. Elle illustre ce besoin. Alors, et on voit bien que du coup, on n'est plus dans les besoins primaires. On est bien au-delà. On voit bien que ce que vous l'appeliez ça un outil, mais c'est pas forcément qu'un outil. Enfin, ça touche vraiment à ce qu'on est profondément, l'être humain, un animal parmi d'autres, mais l'être humain, il fonctionne comme ça. Et du coup, l'être humain, il a besoin d'être sociabilisé, il a besoin de rencontres, il a besoin de se confronter à l'autre, il a besoin d'exister avec l'autre. Et cette crise, je trouve que cette crise, elle nous montre aussi à quel point ce monde est devenu petit, finalement, et à quel point on a un vrai besoin de rencontrer l'autre, un vrai besoin d'être en alternativité, compliqué à dire ce mot, avec l'autre, mais qu'effectivement, pour pouvoir vivre cette rencontre, eh bien, ces fameux besoins primaires, c'est juste essentiel. Et en fait, une fois qu'on les a oubliés, une fois qu'on n'en a plus conscience, une fois qu'ils sont là et qu'ils sont bien installés, bah effectivement, on peut aller vers le reste. Et puis, on peut même réaliser que celui dont je disais qu'il était prêt à bouffer des nouilles pendant 4 ou 5 mois pour s'acheter son iPhone, il le fait consciemment. Et après tout, pourquoi pas ?
En tout cas, il a la possibilité de le faire, ce qui n'est pas forcément le cas. Voilà, il sait que c'est une privation qui est éphémère, en fait, qui est passagère, je voulais
dire. Alors, il a la possibilité de le faire, mais encore faut-il qu'il réalise qu'il n'est pas lui-même manipulé par une espèce d'économie de marché qui pousse à la consommation. Moi-même, j'ai un iPhone. Moi-même, j'ai une tablette iPad. Et pas autre chose. J'ai fait ce choix j'ai fait ce choix volontaire de mettre de l'argent là-dedans. Et à l'époque, d'ailleurs, quand j'ai acheté ma tablette, je me suis privée d'autre chose. Donc c'est un choix conscient que j'ai fait. Après, effectivement, je ne change pas de tablette tous les jours. Voilà. Je ne pense pas subir une forme de consommation. Et je crois que la crise, elle nous invite aussi à ça et elle nous révèle ça. Et je pense qu'on serait surpris, si on faisait une étude un peu sociologique, je pense qu'on serait surpris de ceux qui sont le plus pris dans cette dynamique de consommation.
On serait surpris, et puis d'ailleurs on voit aussi, et pour en revenir à cet aspect de la consommation pure, on a dans une ville de l'est de la France, donc ce village qui lutte contre l'implantation du géant Amazon, et on a un peu, à une époque on parlait du pot de terre contre du pot de fer, mais là ce qu'on opposait en fait c'était le circuit court, c'était la production locale contre le mastodonte de l'éphémère. Vous avez parlé tout à l'heure, Hayat, de ce qui était utile et de ce qui n'était pas, des premiers de cordée. Moi, j'ai envie de revenir un petit peu sur cette question d'utilité. Parce que l'utilité pure, selon Maslow, ça serait se nourrir, ce qui n'est... Voilà. Mais l'utilité humaine, elle est peut-être autour de là, peut-être autour d'autre chose. Parce que ce qui nous a manqué, comme le dit Karine, c'était les gens. Mais c'était aussi l'incarnation, en fait, le côté réel... Un petit garçon me disait, de ma connaissance très proche, la maladie du Covid, c'est qu'on peut pas se toucher.
Oui.
Voilà. Finalement, il y a peut-être quelque chose qui manquait. Ça. Et vous qui êtes dans l'habillement, on pourrait dire finalement que ça pourrait paraître inutile, mais finalement, la parure, ça fait partie de l'être humain depuis la préhistoire.
C'est ça, donc, exactement. Donc l'homme a très vite su s'habiller et se couvrir. J'aimerais revenir surtout sur le côté humain de tout ça. Mon mari est travailleur social dans un organisme d'État, une mission d'État. Il s'occupe des migrants, donc il gère un flux de migrants assez important. Des fois, dans la journée, il peut avoir jusqu'à 300 personnes. Et avec des histoires qu'on entend dans les films les plus improbables, des choses même où il faut s'accrocher mentalement. Et des personnes, des fois, qui arrivent avec plusieurs jours de faim, de soif, avec des bébés, avec des grossesses, avec des maladies, des tumeurs. Ils ont risqué leur vie pour venir se soigner ici, pour la plupart, ou trouver un avenir meilleur. Et l'ironie du sort a fait que cette maladie, qui est censée justement appeler à l'humain, on parlait de la solidarité tout à l'heure, des entreprises, tout ça, eh bien... Ces organismes qui sont censés aider ont dû fermer. Donc, ils s'est trouvé en disponibilité, mais il n'y avait pas de mesure pour accueillir ce flux. C'est-à-dire que du jour au lendemain, des personnes, comme vous avez dit, qui n'ont pas, que Karine a dit, ils n'ont pas ce choix. Il y a des personnes qui se privent effectivement pour avoir des produits, pour avoir, mais ils ont des pâtes. Ils peuvent manger des pâtes. Là, on se retrouve avec des personnes qui se retrouvent du jour au lendemain avec des structures fermées, qui ne peuvent pas gérer leur dossier, donc en urgence, pour qu'ils puissent rester ici, et des structures qui n'ont pas de quoi leur donner à manger. Qui est monté au créneau à ce moment-là? C'est la population, c'est-à-dire que dans les quartiers, on a vu naître des structures, on va dire, sans être structurées. Des gens, des habitants, des voisins, des voisines, qui se sont mis, des mosquées, des églises, des synagogues, qui se sont mis à récolter des vivres pour pouvoir
et des entrepreneurs, des restaurateurs du triangle d'or bordelais.
Des bouchers, on a vu les primeurs, on a vu pas mal d'entreprises comme ça, justement pour que leur stock ne soit pas parti à la poubelle, ne parte pas à la poubelle, se sont vus faire des cartons. On a eu ce cas-là, justement, d'étudiants bloqués dans le campus, privés de petits boulots, privés de nourriture. Ils avaient peur, ils disaient on ne peut pas rentrer dans nos pays puisqu'il n'y a pas de rapatriement, on ne peut pas travailler et on va mourir de faim au lieu de mourir du Covid. Donc ils se sont retrouvés à faire des paquets. Et là on se dit effectivement, pour rejoindre l'habillement, on se dit mais nous en fait, est-ce que, je rejoins encore ma chronique, est-ce que c'est inutile, est-ce que c'est utile? Oui, c'est utile, parce que dans le domaine du textile, le textile est le deuxième plus gros pollueur mondial. Ça, il faut savoir. En temps normal, on est les plus gros pollueurs mondiaux. Là, maintenant, à l'heure actuelle, c'est se poser la question. Nous qui créons, parce que c'est de la création, de A à Z, on n'importe pas, on crée, on fabrique, on pense aux matières, on pense... Tout ça, aujourd'hui, il faut que nous changions notre fusil d'épaule, nous, en tant que professionnels, pour que les personnes qui achètent arrêtent d'acheter, justement, des choses obsolètes. Parce qu'effectivement, à force d'acheter des marques que je ne citerai pas...
12 t-shirts qui durent 2 mois.
Voilà, exactement. Eh bien, on en revient à un seul t-shirt qui va vous coûter 30 euros, mais par contre, qui va passer 10 lavages sans problème. Et c'est à nous, en tant que professionnels, quand on conçoit des vêtements, et c'est ce qu'on fait avec Rocaminal Création, avec mes deux acolytes, on pense à des vêtements qui peuvent être réutilisés une deuxième, troisième fois, mais sous une manière différente, avec un côté modulable, avec un côté réversible, avec un tissu qui va tenir. Là, les masques, on a fait un test avec les masques de la métropole de Bordeaux. Le premier lavage, les masques se sont effilochés. Nos masques, là, on est à presque 10 lavages, sans que ça bouge. Avec une respiration, bon, là, c'est l'été, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, il faut penser, nous, on a une responsabilité en tant que professionnel, en tant qu'entreprise, on a une responsabilité. Tout ce qu'on crée, ça reste.
Tout ce qu'on crée, ça reste, mais ça peut aussi parfois se recycler.
Tout à fait.
J'ai envie de dire, et ça sera peut-être, on arrive bientôt au terme de notre émission, que justement, Karine, vous qui êtes facilitatrice, mais surtout accompagnatrice dans les normes RSE des entreprises, c'est peut-être le moment ou jamais. Que dire aux entreprises aujourd'hui, à ce niveau-là ?
C'est le moment où jamais, vous savez, quand j'écoutais Ayat, je me disais, on a démarré l'émission sur la notion du temps, et on l'a fini sur la notion du temps. C'est quand même pas banal. Et la RSE, c'est exactement ça. S'il y a une leçon à retenir de la crise, c'est ce rapport au temps. On a, encore une fois, une économie de marché qui a apporté plein de choses. Il ne faut pas non plus le négliger et il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Néanmoins, les deux aspects les plus meurtriers, on va dire, de cette économie de marché, c'est le rapport au temps et le rapport à la planète. Dans le rapport au temps, c'est le tout tout de suite. Le tout tout de suite, et c'est ce qu'évoquait Ayat, cette espèce d'effet où je prends, je jette. Et dans le rapport à la planète, c'est le fait de dire, mais finalement, on a des ressources sans limite, donc on peut consommer sans limite, quoi. Et on a bien compris, on a bien mesuré aujourd'hui que ça, c'est fini. Et si ça, c'est fini, eh ben, ça amène effectivement chacun, chaque citoyen à être responsable, et au-delà de ça, ça amène chaque groupe qui se constitue à développer une économie, et donc les entreprises, bien évidemment, à devoir prendre conscience de leur responsabilité sociétale. Et ça, c'est fondamental. Et il est temps aujourd'hui, vous savez, enfin moi, quand on est sorti de la crise, j'ai entendu beaucoup d'émissions ou de propositions qui étaient faites pour aller et ce qui est effectivement, on revient aux besoins primaires. Pour les besoins primaires de l'entreprise, ça va être refaire du chiffre d'affaires, refaire de la trésorerie et des choses comme ça. Et pourtant, il serait urgent de se poser et de dire, mon entreprise, elle sera quoi dans 10 ans? Et quelles valeurs je défendrai? Et ça, c'est de la responsabilité sociétale. Et c'est maintenant qu'il faut le faire.
C'est maintenant. On va se quitter, les filles. Je vous remercie d'avoir fait cette émission avec moi. Et pour continuer le débat, il s'agit encore d'écouter aussi d'autres voix comme les vôtres qui se posent des questions, mais qui proposent aussi des choses. Demain, au Rocher de Palmer, ici à Senon, à 15h, Michel Cabanne donne une visioconférence. Michel Cabanne, c'est un docteur en économie et en socio-économie. Il a été maître de conférence à Bordeaux 4. Il a une grande expérience de l'économie locale. Il nous interroge sur la fin du néolibéralisme, la fin ou pas, justement. Donc, les raisons, les conséquences, comment on appelle ça, Karine, aidez-moi, les leçons, voilà, les leçons qu'on peut tirer de cette crise qui n'est pas finie. Et il s'interroge aussi, Ayat, sur justement la place de l'humain dans tout ça et la nécessité de protéger le vivant et la présence. Michel Cabanne, vous pourrez écouter évidemment pour des raisons de protocole sanitaire cette visioconférence en direct sur le Facebook du Club des entreprises de ce nom, sur celui de Eau de Radio, donc, qui est partenaire du Rocher de Palmer pour cette visioconférence. 15h, le hashtag Club des entreprises de ce nom, Eau de Radio. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite d'excellentes vacances. J'espère que nous nous retrouverons avec plein d'autres entrepreneurs, plein d'idées, de belles initiatives très vite. On se quitte puisque nous, on a aussi à cœur de défendre l'universalité chez Eau de Radio avec Spook and the Gang, Anti-Racist Soldier. Au revoir.
Tu vomis une théorie
aussi ignoble qu'erronée, petit.
que belles cendries de haine, de frustration. Tu n'es qu'un ramassis, fasciste basse. Tu es mon pire ennemi.
Au nom de ces idées, combien de barrières policières devront subir tous ceux qui ne répondent pas aux critères.
Combien de crawlers d'affiches pourront encore le sang-froid
abattre gorge qui s'enfuyait déjà.
Ne parlons même pas des 20% d'électeurs qui légalement déterrent Hitler de son bunker et qui parlent en vote et leur ignorance sur un sac de boue, partez à Nouvelle-France.
Alors allez l'Algérie, je suis de son côté. Il a de la Portugais, je suis de son côté.
Pas du mal à Marocaine, je suis de son côté.
Allez le Sénégalais,
je suis de son côté. Véronique Bellet, poète, je suis de leur côté.
Le juif iran, le communiste, je suis de leur côté.
La marche est terminée,
je suis de leur côté. Le pauvre, le zéro pour, je suis de leur côté.
Anti-racist soldiers, we are freedom fighters. Anti-racist soldiers, we are to change them all. Anti-racist soldiers, we are freedom fighters. Anti-racist soldiers, we are to change them all.
Pas du souvenir du passé, laisse à penser que l'horreur n'est pas encore enterrée.
Que le sang, l'histoire, en prison, lycée.
Certains les révisent du fond d'un asile d'aliéné.
Au nom de la race,
nous ne faisons pas partie.
C'est des odieux, des méchants, des fachos et des aigris.
Au nom de leurs idées tordues, combien le passage à tabac devons-nous encore constater dans les commissariats.
Combien de misère et d'humiliation pour tous ceux qui n'ont pas les yeux bleus
et le cheveu blanc.
Moi je comprends que certains potes aient envie de péter un pont, d'aller dans la rue avec un gueule de fleurs incarnant.
Cette fois sans exagérer, comment admettre que parce que ta peau est colorée, que ce soit pour être embauché ou pour aller danser,
la direction serait un peu droit d'entrée.
Je suis de son côté.
Il a rien de portugais, je suis de son côté.
Quand il m'a la marocaine, je suis de son côté.
Amour le Sénégalais,
je suis de son côté.
Le RMiste et le poète, je suis de leur côté.
Le juif errant, le communiste, je suis de leur côté.
L'anarchiste et l'immigré, je suis de leur côté.
Le pauvre, le cerveau, je suis de leur côté.
Anti-racist soldiers, we are freedom fighters. Anti-racist soldiers, we are to change them all. Anti-racist soldiers, we are freedom fighters. Anti-racist soldiers, we are to change them all.
Aux sans-logis, à tous les déracinés, à tous les jaunes, aux rebeux, aux renois, aux pédés, à tous les blondinés, aux fagés, aux expulsés,